Alors, cinquième partie, ça va. Les problèmes, les questions et les conneries. Oui? Eh ben non, justement, j'avais ouvert là, mais il a fermé parce que c'est des travaux, mais vaut mieux laisser ouvert à cause du CO2. Vous pouvez ouvrir la porte derrière.
Les étudiants t'entendent plus, toi, que moi.
T'as fermé la porte aussi?
Ben oui, là, on a du CO2 qui est...
Ben oui, c'est ça le problème, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse?
T'es déjà rouge.
Oh là. Ah oui, je suis rouge. C'est quoi, ça, le rouge, là?
Ben, rouge, ça veut dire que normalement, il faut évacuer.
Mais j'ai pas fini le cours, j'évacuerai dans une heure. Dans moins d'une heure. Alors, les problèmes et les conneries. Alors là, je pose des questions qui ne sont pas résolues. Tout ce que je vous ai raconté concerne les grands océans. Les petits trucs comme l'océan alpin sont beaucoup trop plus mis en mouvement par les plaques voisines que par leur mouvement propre. Les petits océans, c'est pas ce que je vous ai raconté. Je vous ai raconté les grands. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des dorsales lentes, en particulier lors d'une oscillation? Par exemple, la dorsale atlantique, c'est pas les Antilles à elles toutes seules qui tirent, qui ouvrent toute l'Atlantique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? L'initiation des dorsales lentes. Qu'est-ce qu'on peut, on va répondre à certaines de ces questions, mais pas à toutes. Qu'est-ce qu'on peut dire de la subduction des lithosphères jeunes? On en a un peu parlé. Est-ce que la part profonde du slab, est-ce qu'elle elle est suffisante? Qu'est-ce qu'on peut dire des mouvements mantéliques sous les plaques rapides? Normalement, si ce que je vous dis est vrai, le manteau sous-lithosphérique est entraîné par le mouvement de la plaque. Mais jusqu'à quelle profondeur? Y a-t-il quand même des mouvements propres? Sans doute. Et quelle en est l'origine? Là, il faut attendre les progrès de la tomographie sismique pour pouvoir répondre à ces questions. Revenez dans 20 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire des mouvements telliques sous les plaques lentes? En particulier leur part continentale. Sous un vieux bouclier, que fait le manteau sous un vieux bouclier? Qu'est-ce qu'on peut dire de la séparation géochimique entre le manteau supérieur et le manteau inférieur? On l'a vu, le manteau supérieur n'a pas la même géochimie isotopique en particulier que le manteau inférieur. Or, ça doit se mélanger, puisque les subductions descendent jusqu'au fond. Qu'est-ce qu'on peut dire des mouvements verticaux intra-plaques? Il y a des régions loin de toute limite de plaque où des mouvements verticaux récents. C'est pas bien expliqué. Donc, il y a plein de questions. Je vais en répondre à quelques-unes, mais pas à toutes. Deuxième question, c'est l'initiation des dorsales lentes. Une réponse partielle, c'est que souvent, il est possible qu'il y ait une tête de point chaud qui arrive. Souvent, quand une tête de point chaud arrive, ça fait un magmatisme colossal. On parle en anglais Large Igneous Province, LIP. Par exemple, les trappes du Deccan. Et elle est sortie quelque part par là, à l'époque. Et ce machin-là, ça a initié une dorsale. Il se trouve que la tête de point chaud, qui maintenant a initié une dorsale, alors depuis, ça a dérivé. Alors, ça pourrait être ça. Mais par exemple, quel est le plus célèbre province magmatique géante? C'est les Deccans ou la Sibérie. Il y en a une seule qui affleure en France. C'est ce qu'on appelle la CAMP, Central Atlantic Magmatic Province. Ça affleure beaucoup en Guyane, un petit peu dans les Pyrénées et en Bretagne. Comme c'est la seule qui affleure en France, c'est celle dont l'éducation nationale parle le moins. Il y a toujours une espèce d'anticorrélation. Alors, cette machin-là, l'origine de ce truc-là, ce serait, conditionnel d'usage, la Pangée était faite depuis longtemps, la chaîne hercynienne a déjà un certain âge, on est au milieu d'un énorme continent, la croûte continentale fait bouclier thermique, la chaleur s'évacue mal, et donc le manteau devient anormalement chaud là-dessous, et pendant 70 millions d'années, la chaleur s'accumule, ça fait un bombement thermique, haute température, bombement thermique, fracturation, manteau superficiel chaud, et province magmatique géante, mais comme il y a une pente et tout ça, ça aurait glissé, c'est ça qu'aurait initié la dorsale atlantique. Est-ce vrai? N'est-ce pas vrai? J'en sais rien. Mais je me pose le problème, et j'ai une réponse à moitié satisfaisante. Malgré toutes ces questions, tous ces problèmes en suspens, voici une tentative de réponse partielle, qui est vieille, hein, doit avoir 20 ans. Vous avez le manteau inférieur, le manteau supérieur. Il y a des subductions qui s'arrêtent, mais pas mal de subductions passent. Les dorsales, c'est toujours un phénomène superficiel. Ça ne vient jamais de profond. Et il y a des points chauds, des petits points chauds, ou ce qu'on appelle des superswells, des superbombements, qui dégénèrent en petits points chauds individuels. C'est le cas, par exemple, en Afrique ou dans le Pacifique. Ça, c'est un premier modèle. Voilà un autre. Mais tous ces modèles ont unanimité, les rides des dorsales, c'est du pipi de chat. Et les subductions, c'est ça qui est important. Et là, l'auteur de ce dessin, sans trop l'expliquer, met quand même une limite géochimique entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, qu'on n'explique pas très bien. Elle est là. Là, c'est un modèle qui a été fait dans un article dont les deux auteurs sont Stéphane Labrosse, qui vient de me dire de me taire, et moi-même, qui est dans un, je le mets parce que c'est pour la science, donc qui est à la liste d'Agreg. Vous avez ce magnifique schéma que j'ai un petit peu modifié, où vous avez le contexte du magmatisme. Bon, ça c'est le noyau, la couche des secondes. Vous avez les subductions qui mettent en mouvement les dorsales et les lithosphères océaniques. Le magmatisme se trouve à l'aplomb des subductions. Je vais simplifier avec que le magmatisme alcool calin. À l'aplomb des dorsales, ça tire, mais le manteau, c'est du racolage superficiel ici. Vous avez les points chauds qui viennent d'en bas. Alors attention, ça, c'est une ligne. C'est-à-dire, s'il y avait une coupe en trois dimensions, ça se prolongerait comme ça. Point chaud, c'est ponctuel. Et puis, vous avez ce que j'ai rajouté là, le volcanisme des zones de collision, qui souvent n'y est pas, mais vous avez du volcanisme dans les zones de collision. Alors, un résultat qui a été publié en novembre 2020, ça fait donc 11 mois, 10 mois, fait par des gens du laboratoire, qui ont pu quantifier l'éventuelle teneur fondue sous les lithosphères. Sous une dorsale ou sous un point chaud, la fusion partielle, c'est entre 5 et 20%. Donc, sous le point chaud, sous la dorsale. Sous la lithosphère océanique, il peut rester un tout petit peu de liquide de fusion. C'est-à-dire, le liquide qui était là, sous une dorsale, peut ne pas être complètement solidifié. Et il peut rester jusqu'à 0,3% de liquide. C'est pour beaucoup, 0,3%. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'augmentation de ma retraite. Quant aux lithosphères continentales, là, apparemment, il n'y a pas de liquide. Du tout, du tout. Et là, c'était étudié non pas en regardant le ralentissement des zones sismiques, mais l'atténuation. C'est-à-dire, on ne regarde pas la vitesse, mais on regarde la diminution de l'intensité, l'amortissement avec la distance. C'est un résultat tout neuf. Il n'est pas exclu qu'il y ait un tout petit peu de fusion partielle, 0,3%, maximum, sous les lithosphères océaniques. Ça facilite encore plus le découplage. S'il y a un tout petit peu, 0,3% de liquide, c'est comme vous mettez une goutte d'huile entre deux solides, ça lubrifie. Et ça expliquerait pourquoi une subduction ici peut ouvrir une dorsale à 5000 km de là. Ici, il faut que ça glisse bien. Les erreurs et les maladresses impardonnables en 2021, eh bien, que couramment faites par des agrégés, des universitaires, des chers collègues, et peut-être même... Olivier, tu m'enregistres pas. Peut-être même par certains membres du jury. Je vous ai montré ces schémas tout à l'heure. Vous vous rappelez? J'ai dit que c'était des horreurs. Ces schémas induisent, voire enduisent l'élève en erreur. Voici un professeur qui enduit son élève en erreur. Alors on va le prendre celui-là. Quand c'est orange, c'est que c'est une maladresse, c'est pas faux, mais c'est maladroit. Quand c'est rouge, c'est que c'est faux. Là, il y a marqué médial, dorsal médio-océanique. Mid-oceanic ridge. Pourquoi médio? Si le monsieur, c'est un Américain, il est de New York, il a l'Atlantique, la dorsale est au milieu. Mais s'il est à Los Angeles, dans le Pacifique, la dorsale n'est pas au milieu. Donc, médio-oceanic ridge, c'est de l'impérialisme nord-atlantique. C'est des gens qui sont de l'OTAN. North Atlantic Treaty, je ne sais plus ce que veut dire OTAN, mais c'est North Atlantic. Donc, les dorsales ne sont pas mid, pas toutes. Ici, le manteau est couleur lave, orange. Pourquoi pas? Mais ça renforce l'idée d'un manteau liquide, comme du rouge. Ça fait feu. C'est chaud, c'est pas liquide. Là, il a mis la dorsale au centre du schéma. Quand on met quelque chose au centre, c'est qu'implicitement, ça lui donne un rôle majeur. C'est pas une faute, c'est une maladresse qu'elle n'a pas. Comme qu'un ministre dit que l'élève est au centre de l'éducation nationale. Si c'était vrai, ça se saurait. Au centre de l'éducation nationale, vous savez quelle est la devise de l'éducation nationale? Alors c'est sexiste, je m'excuse. C'est pas de couilles, pas d'embrouille. Pas de vague. Si quelqu'un est bon en rime, comment faire la même chose? Pas de couilles, pas d'embrouille, mais avec pas d'ovaire, pas de... l'équivalent d'embrouille en R. Comment? Calvaire, non, embrouille, c'est... Bon, passons. Si l'élève était au centre du dispositif d'éducation, ça se saurait. Alors, qui est beaucoup plus grave, c'est que là, l'ascension sous les dorsales part de la limite noyau-manteau. Ce qui est faux. J'espère vous avoir convaincu. Là, on a des flèches. Intuitivement, quand vous avez une flèche, si elle est longue, c'est que ça va vite, si elle est longue, petite, c'est que ça va lentement. Les flèches dans le manteau inférieur sont beaucoup plus grandes que les flèches dans la lithosphère. On a l'impression que ça entraîne les mouvements superficiels. Ce qui est faux. Donc vous voyez, si je prends l'autre schéma, alors là il y a marqué rift océanique, attention, tous les dorsales n'ont pas de rift. Les dorsales lentes n'ont pas de rift, de vallée axiale. C'est un détail. Sinon, on a l'impression, sur pareil, que les mouvements asténosphériques, les flèches roses, qui sont plus grandes que les flèches vertes, que la lithosphère est entraînée par ce qu'il y a dessous. On a vu que c'était l'inverse. Ici, vous avez la lithosphère océanique et une épaisseur constante. Ce qui est faux. Alors, c'était déjà pareil là. La lithosphère est d'épaisseur nulle sous la dorsale et d'épaisseur de plus. Alors, ça croît en 1 sur racine de T, je ne sais plus quoi, vous verrez ça quand vous ferez la thermique. Mais il ne faut surtout pas dessiner une lithosphère d'épaisseur constante. Si vous voulez caricaturer, il faut exagérer son épaississement avec le refroidissement. Alors, il me faut encore un quart d'heure. Hein. Et puis ici, vous avez, alors pareil, l'ascension sous les dorsales part de la base du manteau, ce qui est faux. Ça part de plus profond que les subductions. Les subductions s'arrêtent ici, je ne sais pas pourquoi, puisqu'elles vont jusqu'au noyau. Et ça, ça vient du noyau, je ne sais pas pourquoi, puisque ce n'est pas vrai. Mais vous savez qu'une des plaies de l'éducation nationale et de la vulgarisation, c'est copier-coller. Ce schéma a été fait il y a 40 ans. Les gens trouvent que c'est très bien, pourquoi se fatiguer à en faire d'autres? Copier-coller. Et puis là, vous avez un figuré, alors ils disent pas trop ce que c'est, mais ce gros bonbon rose, là, on peut supposer que c'est un réservoir magmatique, une chambre magmatique, on peut supposer que. Et elle va très profond, elle est intramantélique. Alors que les chambres magmatiques sont intracrustales. Ils confondent chambre magmatique et zone de fusion partielle. Alors si je reprends la dorsale dans ce manteau-là, voilà l'agrandissement de la dorsale dans ce dernier schéma, dans celui-là, où tout enduit l'élève en erreur, lithosphère d'épaisseur constante, et là, ce machin-là, a priori, les gens vont penser que c'est une chambre magmatique. 90% des élèves le penseraient. Il faudrait dessiner avec le... Et là, pareil, hein, les flèches en bas sont plus grandes que les flèches en haut, ce qui n'est pas vrai. Il faudrait dessiner quelque chose comme ça, des flèches ici. Là, ça monte pour boucher le trou. Là, vous avez une zone de fusion partielle, c'est des petits points. Et là, vous avez un réservoir magmatique, tout petit, intracrustal. J'ai mis le même code de couleur, c'est malheureux. Donc là, je prends un autre code de couleur, la croûte en marron, le manteau en vert, clair quand il est asténosphérique, foncé quand il est lithosphérique, la zone de fusion partielle et le réservoir magmatique dans la croûte. Voilà, zoom, schéma. Donc. Ça, je dis pas que c'est juste, mais c'est pas contraire aux données. Les autres, c'est contraire aux données. Et n'oubliez pas que le magmatisme n'existe pas partout, puisqu'il y a les dorsales lentes. Ça, c'est une faute, parce que vous avez une dorsale à rift. Dorsale à rift, c'est une dorsale lente. Et dorsales lentes ont beaucoup moins de croûte que ça. Là, il a mis le rift sur une dorsale rapide. Une incongruité de plus. Alors, quelques expressions toutes faites et autres lieux communs qu'il faut combattre de toutes ses forces. Alors, j'ai mis un tableau de Daumier, les commères. Le café du commerce, on raconte des choses, hein, vous savez, avec le vaccin, on vous injecter des puces, et avec la 5G, ça vous voilà des conneries. Et il faut combattre ça de toutes ses forces. Par exemple, prendre une casserole chauffée par le bas, et où le refroidissement superficiel ne saute pas aux yeux, pour simuler la convection mantélique. C'est très maladroit. Le manteau de la Terre n'est pas principalement réchauffé par le bas, mais surtout dans sa masse, et refroidi par le haut. L'expansion des fonds océaniques et la technique plate, la comparer avec un tapis roulant. Vous avez déjà entendu ça. C'est de Nicolas Hulotry, ça. Ben, un tapis roulant est mis en marche par des engrenages qui sont situés sous lui. C'est des engrenages sous le tapis qui mettent en marche le tapis. Or, ce n'est pas la sténosphère qui met principalement en mouvement la lithosphère, mais l'inverse. La phrase classique. Quand une lithosphère océanique rencontre une lithosphère continentale, on peut dire croûte, c'est la lithosphère océanique, plus dense, qui subduit. Vous avez déjà entendu ça. Alors d'abord, ça serait vrai si les dorsales poussaient beaucoup, ce qu'ils ne font pas. Et puis même, quand quelque chose coule, que ce soit la lithosphère océanique, ou le Titanic, ou un baigneur dans une piscine qui se noie, c'est pas la densité de ce qui est à côté qui compte, la lithosphère continentale ou l'iceberg. Mais la densité de ce qu'il y a dessous, la sphère, l'eau de mer. Est-ce que quelqu'un qui se noie dans sa piscine, il se noie parce qu'il est plus dense que l'eau, parce qu'il est plus dense que le bord de la piscine? Vous vous rendez compte les conneries qu'on nous dit fait dire? C'est monstrueux. Et comme on ne nous apprend pas à réfléchir, on répète. Perroquet. Alors l'expression, comme il y a fabrication de, au niveau des dorsales océaniques, fabrication de dorsales et tout ça, et que la Terre n'augmente pas de volume, il faut bien qu'il y ait disparition d'océan quelque part. Alors historiquement, c'était pas idiot, parce qu'on a démontré le fonctionnement des dorsales avec les anomalies magnétiques, avant de démontrer le fonctionnement des zones de subduction. Donc on voyait qu'il y avait fabrication de surface au niveau des dorsales, on s'est dit, comme la Terre n'augmente pas de volume, il faut bien que ça disparaisse quelque part, où est-ce que ça peut disparaître? Mais ça, c'est une démarche historique. Et cette démarche historique s'est transformée en démarche phénoménologique, explicative. Si on veut dire quelque chose de correct, il faudrait dire, comme il y a disparition de surface océanique au niveau des zones de subduction et que la Terre ne diminue pas de volume, il faut bien qu'il y ait création d'océan quelque part. Ça serait moins idiot. Alors, employez le mot croûte à la place du mot lithosphère. Vous avez dit, dans une subduction, la croûte océanique s'enfonce. Ou encore, la dorsale qui fabrique de la croûte. C'est pas faux. Mais quand votre mère était enceinte et qu'elle vous a fabriqué, est-ce que vous diriez que pendant 9 mois, votre mère a fabriqué des intestins? Elle l'a fait. Mais vous diriez qu'elle a fabriqué un bébé qui, certes, contient des intestins. Ce qui subduque, c'est pas une croûte, c'est une lithosphère. Ce que fabrique une dorsale, c'est pas une croûte, c'est une lithosphère. Qui, d'ailleurs, des fois, n'a même pas de croûte dans le cas des dorsales lentes. Donc, n'employez pas le mot croûte à la place du mot lithosphère. C'est pas pareil. Alors, des fois, on dit qu'il y a création de matière au niveau des dorsales. J'ai encore vu dans quelques livres, création de matière. Puis le Big Bang, et puis Lavoisier, et sauf dans les contes de fées, où des fois on peut, hein, on sait qu'il n'y a pas de création de matière. Au niveau d'une dorsale, il y a remontée et refroidissement de matière. Il n'y a pas de création.